voix nue. Toute cette semaine, Maëlys Bessery rencontre Noël Mamère. Ce soir, vers un journalisme engagé.
Bonsoir Noël Mamère, c'est encore au journaliste auquel je m'adresse aujourd'hui. On a parlé de vos débuts, puis de votre arrivée au journal de midi, Antenne de midi. Vous avez connu un certain nombre de surprises en tant que journaliste, surprises du direct, de surprises émanant des événements de l'actualité de la fin des années 80, pendant lesquels vous officiez. Quels sont les grands moments qui vous ont marqué de télévision ?
Ah, on vit quand on a la chance de pouvoir présenter un journal, surtout sur une durée de 50 minutes et tous les jours, on vit plein d'événements. On en vit tellement d'ailleurs qu'on finit par relativiser et en oublier beaucoup qui ont pourtant de l'importance. Alors, dans l'ordre de dans l'ordre du spectacle, on va dire, le souvenir le plus marrant au final, parce que c'est ça, même si ça a eu des conséquences politiques fortes, c'est l'épisode du journal de 13 heures, le 1er janvier 1983. Il faut savoir que j'ai commencé la présentation du 13 heures très exactement le 6 décembre 1982. Donc ça fait pas longtemps que je présente le 13 heures. C'est moi qui suis de permanence ce dimanche. Et ce jour-là a été décidé par la direction de la rédaction que le 13 heures consacrerait une toute petite partie aux news du jour, et que l'essentiel du 13 heures serait consacré à une interview en direct du président de la République, François Mitterrand. Faut pas oublier que nous sommes début 83, à la veille du fameux tournant de la gauche, et où le président de la République est en très mauvaise posture dans les sondages. Donc se déplace à Latch, Pierre Lescure, Paul Amar, Albert Duroy, Hervé Chabalier, bref, toute la direction de la rédaction est là-bas pour l'interview du président de la République. Mais Latch, c'est une cuvette, et pour assurer la continuité des faisceaux hertziens qui partent du pic du Midi de Bigorre, il faut une grue spéciale dont la flèche ne bouge pas sous l'effet du vent et donc ne provoque pas de rupture de faisceau pour assurer la liaison. Donc moi je savais pas tout ça hein, quand je suis descendu sur le plateau, donc je sortais, on était je sais pas une petite dizaine dans la rédaction, c'est un 1er janvier vous imaginez, donc on était très peu nombreux, j'avais un chef d'édition absolument formidable, le meilleur que j'ai jamais rencontré de ma vie, et ce chef d'édition me dit au début vers 10 heures, il me dit, Noël, la grue n'est toujours pas arrivée, mais il n'y a pas de problème, ça devrait bien se passer d'après ce qu'ils disent sur place. Il s'appelle Jacques Croisé. Et puis, je continue à préparer le journal, et vers 11h ou vers midi, il me dit, il n'y a toujours pas de grue. Bon, très bien. Mais il me dit, elle va arriver. T'inquiète pas, puisque c'était toujours son truc, c'était de me rassurer. En permanence.
Vous deviez passer l'antenne au bout de quelques minutes.
Et je devais passer à l'antenne à 12h45. Et j'arrivais toujours très en retard, enfin, vraiment à la limite. Donc je descends sur le plateau, je commence les news. À l'époque, il n'y avait pas d'oreillette. Donc on avait un téléphone. Et la tradition voulait qu'on ne parle pas dans le téléphone. On écoutait les ordres ou ce que nous disait le chef d'édition et on raccrochait. Donc c'était la solitude du coureur de fond. Je l'ai expérimenté quelques minutes plus tard. Et Jacques me dit, après les news, et ben il me dit, la grue est toujours pas là. Donc, il faut que tu combles l'antenne. Et donc, je suis resté 40 minutes à l'antenne. Nous, il fallait qu'on comble l'antenne avec des sujets qu'on trouvait. Parmi les journalistes qui se trouvaient là, il y avait Philippe Gassot, qui plus tard a été correspondant de France 2 à New York, à Washington. Et c'est lui qui est allé chercher à notre demande un sujet sur les baudets du Poitou de Pierrette-Bresse, parce que je me suis souvenu de l'interview que j'avais faite de François Mitterrand en 1977, où il m'avait fait tout un développement sur les Baudets du Poitou, puisqu'il était vice-président de l'ADADA, qui est une association de défense des ânes. Et donc, moi, pour combler l'antenne, j'ai dit, tiens, le président de la République est un passionné de la protection des Baudets, des ânes. Il est d'ailleurs président de l'ADADA. Il paraît qu'à ce moment-là, elle a dit, non, monsieur Mamère se trompe, je ne suis que vice-président. Et les gars étaient dans leurs petits souliers en face de Mitterrand. Bref, je comble l'antenne avec tout un tas de trucs. On y arrive. Et à la fin, une grue qui n'était pas celle qui devait assurer la transmission, mais qui était une grue de secours avec la gendarmerie, ils ont réussi à l'installer. Ça, ce qui a permis à Pierre Lescure, tout à fait à la fin du 13 heures, de dire voilà, je me souviens encore de son pull jacquard, de dire voilà, l'émission n'a pas pu avoir lieu pour telle et telle raison, mais demain, nous pourrons assurer l'interview du président de la République. Donc vous imaginez le chaos dans la tête des responsables de la rédaction face au président de la République, qui pour lequel cette interview était quand même très importante politiquement, et l'immense ratage. Donc pour moi, je sors du plateau, je remonte à la rédaction, parce que le plateau était en sous-sol, était de permanence à Paris, Michel Toulouse, et Joseph Pasteur, qui était l'adjoint de Desgroupes, à l'époque de Pierre Desgroupes, est venu dans la rédaction, il est venu jusqu'à notre étage, et ils m'ont offert le champagne pour la performance que j'avais réussi à faire pendant 40 minutes. Le lendemain, il y avait encore plus de téléspectateurs que le jour prévu pour l'interview.
En se disant, il y a des surprises dans le journal.
Oui, selon ce vieux principe selon lequel on va voir le trapéziste et on se demande s'il va se casser la figure. Donc là, ils se sont dit, est-ce qu'il va encore se casser la figure ? Donc c'était pas pour ma performance, c'était pour savoir si ça allait se casser la figure. Donc l'émission s'est bien passée. Mais 8 jours après, le patron de TDF, qui était la société chargée des équipements, a été remercié par le président de la République, parce que la grue, il n'y avait qu'une grue en France qui était à Nancy et qui n'est jamais partie de Nancy. Jamais. Donc voilà, ça c'était un de mes moments amusants.
Est-ce et en même temps, plaisir, et en même temps, d'ailleurs, c'est un plaisir de votre côté, de l'antenne, du micro, du risque.
Un plaisir immense, c'est le risque. Le direct, c'est le risque. Le direct, c'est de l'adrénaline. Le direct, c'est une drogue dure comme la politique. Et c'est justement ce dont il faut beaucoup se méfier, parce que le jour où on vous remercie, et ça arrive à tout le monde, puisque présentateur, c'est pas une charge de notaire, vous avez intérêt à être préparé, parce que la descente, elle peut être très très dur, mais oui, bien sûr, j'avais un plaisir immense. Et moi, j'avais beaucoup de chance. Je considère que c'est une chance. J'ai connu plein de collègues qui avaient un trac fou au moment où le rouge s'allumait, et moi, c'est toujours mon cas d'ailleurs. Quand je vais dans un studio de télé, quand le rouge s'allume, c'est le moment où je me sens le mieux. Donc, je suis assez désinhibé pour ça. Et j'ai beaucoup de chance. Je pense que c'est une chance. Je ne me rends pas compte des risques que je prends, donc j'y vais. C'est pour ça que j'ai pu tenir pendant 40 minutes, alors que j'avais rien dans la poche, rien dans les mains.
Quel genre de journaliste vous étiez ? Est-ce que vous étiez un journaliste très précis, avec ses petites fiches préparées ? Est-ce que vous étiez plutôt un journaliste de l'improvisation, de l'oralité, Noël Mamère ?
J'étais un journaliste de l'oralité, de l'improvisation, et c'est ce qu'on me reprochait à juste titre. Je n'étais pas assez précis. J'ai même été traité par Chabalier, je m'en souviens, d'irresponsable. Donc j'ai commis des erreurs, je le reconnais, qui étaient liées à mon défaut qui est de préparer les choses, mais pas assez, certaines fois, croyant que je vais pouvoir faire appel à mes facilités. Et il n'y a rien de pire, il faut le dire à tous les journalistes. Une émission, ça ne se réussit pas uniquement parce qu'on est devant le micro ou devant la caméra. Il faut la préparer, bien sûr. Et j'ai eu quelques déconvenues. Chez mes collègues, je pense qu'ils m'appréciaient. Mais j'étais plutôt considéré comme un saltimbanque que comme un géomètre.
Pendant cette période des années 80, il y a eu bien sûr une actualité très importante. Qu'est-ce que vous avez pu percevoir du pouvoir des images de ce moment-là, de la télévision ? Il y a eu des grandes actualités, oui, comme justement l'affaire d'Homera Sanchez.
Voilà, vous faites bien de me le rappeler. Vous voyez, quand je vous disais que tellement d'événements se succèdent qu'on finit par les relativiser et en oublier, L'événement d'Omaïra que je vais vous raconter maintenant est 1000 fois plus important que ce qui s'est passé avec la grue, qui était spectaculaire et qui d'ailleurs contribuait à me faire connaître au Trésor, comme Defer avait contribué à me faire connaître assez la vie quelques jours après que j'en ai pris la charge. Omaïra, c'est une histoire d'aujourd'hui qui correspond à ce que nous avons connu 30 ans plus tard avec le petit Eilan sur la plage de Bodrum, au plus fort de la crise des réfugiés de Syrie. Ça se passait en 85, je crois, oui, 85. Un glissement de terrain très important avait eu lieu en Colombie, dans une ville qui s'appelait Armero. Et ce glissement de terrain avait déjà provoqué la mort d'à peu près 10 000 personnes, je crois. Tous les jours, dans les journaux, de 20h ou de 13h ou de 23h, on montrait des images que nous recevions de la bourse d'échange, des EVN. Mais ça n'avait pas provoqué du tout, d'élan de solidarité de la part des Français. C'est quelque chose de lointain. C'était un dimanche encore. C'était Jacques Croiset, toujours, qui était chef d'édition. Nous commencions, nous, le journal d'antenne de midi, à 12h45, alors que TF1 commençait à 13h. Donc on avait un quart d'heure d'avance. Et les images de VN arrivent entre 12h45 et 13h, que toutes les télés reçoivent. Et là, Jacques Croiset me téléphone pendant la diffusion d'un sujet, et me dit « Noël, on a des images très fortes de Colombie, je vais te les envoyer, tu les prends en off, mais tu fais le minimum. » Ok. Et donc il me balance les images, et je prends en pleine tête, comme tout le monde, l'image de cette petite fille, Omaïra, filmée par plusieurs caméras, en train de mourir, avalée par la boue d'Armero. Évidemment, cette image est reprise en ouverture du 13h de TF1, présentée par Bourré, et fait le tour du monde. Et Omaïra, il y a eu beaucoup de critiques sur la diffusion de cette image, sur le fait qu'on appelait à l'émotion plutôt que à l'explication, sur le fait qu'on jouait sur la corde sensible. Il y a eu beaucoup de polémiques sur l'attitude des journalistes qui, au lieu d'abandonner leur caméra et d'essayer de sauver cette petite fille, ont continué à la filmer, sauf que les secouristes n'arrivaient pas à l'extraire de la boue dont elle était prisonnière. Mais l'émotion a finalement joué son rôle, puisque l'image d'Omaïra a provoqué un élan de solidarité vis-à-vis des sinistrés d'Armero. C'est-à-dire ceux qui ne bougeaient pas, tout d'un coup, se sont mobilisés. 30 ans plus tard, il s'est passé la même chose avec le petit Elan, mais ça montre bien la complexité, la difficulté de l'exercice de notre métier, notamment quand il est centré sur l'image. Et donc, on ne doit pas présenter n'importe quoi. De la même manière que, fort heureusement, les télévisions ont refusé de présenter les images d'égorgeurs de Daesh. Ça me paraît le moindre respect de la personne humaine. Mais nous ne sommes plus à l'époque d'Omaïra, nous ne sommes plus en 85. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, et il y a ces images, y compris les plus horribles, qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, qui sont vues beaucoup plus, multipliées par 10, par 20, par 100, que les télévisions. Et donc ça pose effectivement ce problème. C'est pas du respect à l'image, ça pose le problème de jusqu'où on ne doit pas aller dans l'instrumentalisation de l'émotion.
Noël Mamer, vous qui avez...
J'ai écrit un bouquin là-dessus avec mon collègue.
Oui, vous qui avez écrit la tyrannie de l'émotion. C'est ce pouvoir aussi de pouvoir montrer des réalités, les dénoncer. Ça vous a servi plus tard pour d'autres types de journalisme que vous avez pu faire?
Bien sûr. Bien sûr. Je me suis toujours attaché... Bon, cette histoire d'Omaïra m'a quand même marqué, comme tous mes collègues sans doute. Et c'est vrai que dans une autre période de ma vie, notamment quand j'ai été remercié du Trésor et que j'ai...
Vous êtes fait virer du Trésor?
Oui, on peut dire ça. Bon, je me suis fait virer du Trésor en 86. J'ai d'ailleurs appris que j'étais évincé du Trésor dans le bureau de Jean Drucker qui m'avait reçu pour ça. Sa télé était allumée dans son bureau et c'était le jour de l'attentat de la rue de Rennes. Et je voyais le déroulant passer, attentat rue de Rennes. C'est ce jour-là qu'il m'a annoncé que je n'étais plus dans le bon profil. Donc j'avais une part de responsabilité sans doute dans cette éviction, mais il y avait quand même une reprise en main assez sérieuse de la droite. Et il y avait eu des événements, il y avait eu l'épisode des manifs au cours desquels Malik Houssekine avait été tué par les policiers, qui avait quand même provoqué beaucoup, beaucoup de polémiques. Et à l'époque, Bernard Langlois, qui lui-même avait été viré du Trésor quelques années plus tôt, le jour de la mort de Bachir Gemayel et de la princesse Grâce de Monaco, et ce jour-là, comme c'était un garçon qui éditorialisait beaucoup, moi aussi d'ailleurs, mes ouvertures, je m'attachais toujours à les faire très écrites et très précises, et il avait, très justement d'ailleurs, expliqué que la mort de Bachir Gemayel en pleine guerre du Liban était mille fois plus importante, au regard de la géopolitique, que la mort de Grâce de Monaco, qu'il avait qualifiée de princesse d'opérette sur un rocher cossu. Donc protestation de Monaco, etc. Et donc on a même voté dans la rédaction pour savoir s'il devait rester au Trésor ou pas. Et on a été minoritaires, ceux qui ont dit « il faut qu'il reste ». C'est là qu'ils sont allés chercher Daniel Bilalion, qui était en reportage au Liban, qui a repris les rênes du Trésor. Donc Langlois a créé avec Michel Toulouse Résistance, cette émission mensuelle sur les droits de l'homme. Il arrive l'affaire de Malik Houssekine, et là, Bernard, dans le lancement de son émission, parle de la trogne de Pasqua et Le Pendreau, qui étaient les ministres en charge de la sécurité. Et donc, Drucker lui demande de s'excuser, etc., et il ne s'est pas excusé. Et donc, Drucker l'a viré de Résistance. Et comme moi, on venait de me virer du Trésor, Pierre-Henri m'a demandé si j'étais d'accord pour remplacer Bernard Langlois. Et évidemment, j'ai dit oui. Et j'ai assumé la responsabilité de Résistance pendant plus de 4 ans avec de grandes gratifications journalistiques qui n'avaient plus rien à voir avec le direct. Là, c'était d'autres émotions. C'est pas le mot d'ailleurs, émotion. Oui, j'en ai vécu, hein, puisque je suis allé faire une résistance dans les territoires occupés, lors de la première intifada. Je suis allé dans l'ex-Union soviétique au moment de la glasnost avec une partie officielle et une partie clandestine. Je suis allé dans plein d'endroits où j'ai vu des gens formidables qui m'ont beaucoup appris. J'allais voir effectivement les victimes plus que les bourreaux. Mais c'était pas les mêmes. Je ne vivais pas, ça ne m'apportait pas les mêmes satisfactions. Là, quand vous faites du grand reportage, ça vous apporte des satisfactions dans la durée, c'est plus la culture de l'instantanéité, c'est plus l'adrénaline.
C'était une émission de dossier.
C'est autre chose, c'était une émission de grand reportage, oui. Et l'avantage, moi ce que j'avais initié, c'est-à-dire que je présentais, mais souvent je présentais du terrain, c'est-à-dire... Je faisais pas tous les reportages, hein. C'était une émission de 90 minutes. Donc, il y avait des équipes qui faisaient une partie des reportages, mais moi j'en faisais ma part. Et je présentais l'émission depuis le lieu où je me trouvais. Et après, je lui ai donné une dimension géopolitique avec un monsieur qui est devenu assez célèbre après, enfin en tout cas qui a fait une belle carrière, qui s'appelle Michel Fouché, parce que je travaillais beaucoup avec la revue Hérodote de Yves Lacoste. Et j'avais demandé à Michel de venir comme consultant géopolitique. Donc, chaque fois qu'on faisait des émissions, sur la Palestine, sur l'URSS, sur les Arméniens de Turquie, sur le Bangladesh, il m'apportait sa dimension géopolitique. D'ailleurs, je parle du Bangladesh, on était la première émission en Europe à présenter, à faire connaître Mohamed Younous, ce professeur d'économie de Chittagong qui a inventé la Grameen Bank, la banque des pauvres, et qui est devenu célèbre.
Ce moment de résistance de cette émission, c'est le moment un peu où vos convictions et le journalisme se sont un peu mélangés pour justement vous donner comme une sorte de spécialité qui serait celle de la défense des droits de l'homme, d'enquête dans des endroits peut-être un peu méconnus du grand public. C'était un moment...
Disons que si je regarde avec un peu de recul ma carrière journalistique à Paris, à Antenne 2, puisque je n'ai jamais travaillé ailleurs, je dirais que les 5 ans que j'ai vécu au Trésor sont une parenthèse. Et qu'en fait, j'ai fait que du journalisme militant à Antenne 2. C'est la vie, émission très engagée sur les questions d'environnement et de défense du consommateur et du citoyen. Et puis Résistance, émission consacrée aux droits de l'homme. Et entre les deux, cette période, cette parenthèse, cette longue parenthèse, où je m'imposais une obligation de réserve en tant que présentateur du Trésor. Mais effectivement, l'image qui est la mienne aujourd'hui d'un homme engagé dans l'écologie et dans les droits de l'homme, ça m'est venu de mes engagements journalistiques. Donc il y a une continuité, il n'y a pas de rupture. C'est quelque chose de continu, c'est très bien comme ça.
La mission Résistance, ça vous a permis à la fois de suivre la première intifada, ça vous a permis d'aller en Roumanie avant la chute de Ceausescu, vous avez été faire des reportages au Maroc, dans le bagne de Tazmamar, vous avez vu un certain nombre de réalités que vous n'aviez peut-être pas touchées du doigt, en tout cas pas de la même manière.
C'est évident, j'ai découvert d'autres mondes. Simplement, j'apporterai une nuance à ce que vous dites. Oui, dans Résistance, on a présenté une émission consacrée à Cluj et à une personnalité qui était une dissidente du régime Ceausescu, avant la chute du régime de Ceausescu. Mais c'est pas moi qui ai fait le reportage, c'est un journaliste de la RTBF qui s'appelle Josy Dubié, qui d'ailleurs, depuis, est devenu un responsable politique. Je crois qu'il est encore sénateur. L'émission que nous avons consacrée au bagne de Tazmamar au Maroc a été faite par un couple de journalistes qui étaient venus me voir et qui m'avaient proposé ce reportage clandestin que j'ai diffusé. Les autres, oui, c'est moi qui suis allé sur le terrain. Et évidemment, j'ai rencontré des gens formidables. Enfin, c'est une leçon de vie. Parce que vous allez dans des endroits que personne ne connaît, qu'il faut faire découvrir, qui sont ce que j'appelle des terra incognita, pour le grand public, et donc votre rôle, c'est de dire attention, loin de chez vous, ou même pas loin de chez vous, voilà ce qui se passe, voilà ce que vivent les gens, voilà ce que... Moi, mon émission Résistance, c'était pas du tout une émission qui avait pour objectif de dresser un tableau pessimiste du monde, c'était de montrer qu'on a plus de raisons d'espérer que de désespérer. Et donc à chaque fois, dans des situations désespérantes, je mettais en valeur des hommes et des femmes qui, eux, étaient porteurs d'un espoir formidable, de montrer qu'il n'y avait pas de fatalité. Et donc j'ai rencontré des personnalités extraordinaires, c'est un enrichissement formidable. D'ailleurs, quand des jeunes qui veulent faire du journalisme me disent, est-ce que c'est difficile, etc., je leur réponds, le journalisme est sans doute un des seuls métiers où on est payé pour apprendre.
Il y a eu cette découverte, cette émission en Haïti, des batailles. Alors, c'était un des moments qui vous a marqué. Vous avez même chez vous un tableau.
Oui, j'ai.
Qui reflète
cette
histoire haïtienne.
Oui, je suis allé faire un reportage. Là, c'est moi qui ai fait l'entièreté de l'émission. En Haïti, enfin, à Hispaniola, l'île sur laquelle se trouve à la fois Saint-Domingue et Haïti. Et l'objectif, c'était de parler d'Haïti et de la situation dans le pays et celle des Haïtiens à Saint-Domingue. Il se trouve que les Dominicains ont une sorte de mépris vis-à-vis des Haïtiens qui sont africains, le cheveu crépus, ce qui n'est pas le cas des Dominicains, chez qui la trace indienne est encore forte. Et donc les grands propriétaires terriens de Saint-Domingue ont des exploitations de canne à sucre énormes, qu'on appelle les batailles. Et pour cultiver la canne à sucre et la couper, ils font appel à des Haïtiens qui franchissent la frontière, qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, soumis à la terreur de leur patron. Hein. Ça ressemble beaucoup quand vous allez sur place. Je ne l'ai pas connu. Mais vous vous faites une idée de ce que pouvaient être les exploitations de coton dans le sud des États-Unis. Et là, vraiment, ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et je suis allé filmer la condition des Haïtiens dans ces batailles. C'est à cette occasion que dans une cabane, il n'y a pas d'autre mot, sur la terre battue, j'ai discuté avec un de ces Haïtiens, qui par ailleurs était un artiste, et je lui ai demandé de me montrer l'étoile qu'il peignait. Et j'ai vu qu'il c'était un artiste naïf, comme beaucoup d'Haïtiens, enfin, qu'on appelle naïf. Et je lui ai acheté une toile que j'ai dans notre chambre, que je regarde tous les soirs, tous les matins, tellement elle est magnifique, de couleurs, de poésie, de luxuriance. Et je crois que j'ai rencontré ce jour-là un grand artiste. Et puis après, j'ai franchi la frontière pour aller en Haïti. Et là, j'ai vécu un autre moment assez intéressant, puisque j'ai découvert là où avait été enfoui les déchets de Philadelphie. Il y avait une barge que tout le monde cherchait. On savait pas où étaient enfouis ces déchets dangereux. Cette barge qui était illégale. Et en fait, ils avaient réussi à trouver un endroit pour les cacher, c'était en Haïti. Et j'ai interrogé, avec un type qui était très corrompu, qui s'appelait le général Paul, je crois. Et j'ai interrogé un de ceux qui travaillaient dans cette décharge, sur la décharge, où il m'expliquait, je sais que si je peux en mourir, mais je mettrai plus de temps à mourir de ça que de mourir de faim.
Comment vous caractériseriez cette période de votre vie, Noël Mamère? Est-ce que c'est... les convictions deviennent de plus en plus fortes et peu à peu, votre métier change, vos envies changent? Est-ce que c'est l'éveil à une conscience politique peut-être plus précise, même si vous étiez militant depuis de nombreuses années?
Oui, sans doute que ça a joué un rôle dans mon parcours et dans le choix que j'ai fait très peu de temps après de m'engager dans la vie politique. Mais mes convictions, elles n'ont jamais varié, elles ont toujours été les mêmes. Elles se sont sans doute renforcées, elles se sont construites dans mon métier, à la fois dans l'expérience que j'ai connue, assez la vie sur les questions d'environnement, et résistance sur l'ancrage, sur la lutte contre les inégalités, et surtout au service de ce que Frantz Fanon appelait les damnés de la Terre. Et je crois que ça a contribué à un cheminement dans ma conscience politique de ce que, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de faire à la télé. Ça m'a beaucoup apporté. Est-ce que je dois en attendre plus? Est-ce que je peux en attendre plus? Est-ce qu'elle m'offrira plus? Ma conclusion a été négative. Donc c'est là que, lorsque on m'a sollicité pour m'engager dans la vie politique, j'ai accepté de plonger dans le chaudron.
Comme dans un souhait de passer à l'action?
Oui, c'est un souhait de passer à l'action, bien sûr, parce que, comme dirait l'autre, je vais utiliser des lieux communs, je suis passé du dire au faire pendant toute une partie de ma vie. J'ai appliqué cette phrase de Victor Hugo, donner à voir pour faire comprendre, et je suis entré dans une autre partie, une autre séquence de ma vie, où là, oui, il faut que je fasse comprendre les choses, mais où il faut agir. Et donc, j'ai pas le sentiment d'avoir abandonné un métier pour une fonction politique. On me dit souvent, mais alors ça vous manque pas la télé? Non, ça me manque pas, mais si vous me demandiez de revenir demain matin, refaire mon métier, je le ferais avec le même enthousiasme et le même plaisir. Mais à ce que j'ai vécu, c'est substituer autre chose qui m'apporte d'autres satisfactions, puisque la politique comme le journalisme, il faut le faire avec plaisir. Hein, on donne, mais on vous donne aussi. Vous ne pouvez pas faire de la politique si vous n'y prenez pas une certaine forme de plaisir et si vous n'y trouvez pas des satisfactions.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Maïlys Besserie avec Noël Mamère. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Fabien Gosset, réalisation Doria Zénine. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.